Alors quand on fait un pèlerinage chrétien traditionnel, en sortant de Jérusalem par le sud, le premier des lieux saints que nous serions appelés à vénérer, si nous étions vraiment traditionnels, eh bien c'est la tombe de Rachel. On la trouve dans un des documents les plus importants des pèlerinages à l'époque byzantine, la fameuse carte de Madaba. Et à cette époque-là, les chrétiens n'avaient jamais pensé faire des pèlerinages en s'intéressant seulement au Nouveau Testament. Et la tombe de Rachel était importante et elle figure sur ce document qui est du 6e siècle. On va parler de ce lieu saint. Vous allez voir que ça va nous amener à poser un principe de base. Tenez, on va commencer par le plus connu. Où est-ce qu'on parle de la tombe de Rachel dans le Nouveau Testament ?
Au moment du massacre des innocents,
donc à Bethléem. Et le texte que vous avez tous en tête, c'est le texte que saint Matthieu cite de Jérémie. Une voix dans Rama s'est fait entendre, pleurs et longues plaintes. C'est Rachel qui pleure ses enfants et elle ne veut pas qu'on la console car ils ne sont plus. Bon scribe qui est saint Matthieu, on aura l'occasion d'en reparler. À la charnière de l'Ancien et du Nouveau Testament, comment il procède, il rentre son trésor du neuf et du vieux pour exprimer ce problème si important, décisif, capital des rapports de l'Ancienne et la Nouvelle Alliance. Pour le moment, simplement à propos de la tombe de Rachel. Alors on en parle dans saint Matthieu.
C'est à Rama qu'on le situe.
À Rama, alors justement. Et Rama, c'est pas à Bethléem, c'est à 9 km au nord de Jérusalem. Et de fait, l'Ancien Testament nous montre qu'il y a deux tombes de Rachel. Alors, où est-ce qu'on parle de la tombe de Rachel dans l'Ancien Testament ?
Il y a 2 Samuel ?
Oui, mais encore avant.
Quand le fils de Rachel
meurt. Oui, c'est ça. Rachel meurt en donnant naissance à Benjamin. Alors ça, c'est raconté dans la Genèse. Partir de Bethel, il restait un bout de chemin pour arriver à Ephrata, Bethléem, Ephrata, quand Rachel accoucha. Ses couches furent pénibles. Et comme elle accouchait difficilement, la sage-femme lui dit « Rassure-toi, c'est encore un garçon que tu as ». Au moment de rendre l'âme, car elle se mourait, elle se nomma Ben-Oni, mais son père l'appela Benjamin. Ben-Yemini. Enfin, Ben-Oni, c'est le fils de ma souffrance. Jacob, c'est pas un nom pour un garçon. Alors, il l'appelle le fils de ma droite, de ma force. Et Rachel mourut et fut enterrée sur le chemin d'Ephrata, c'est Bethléem. Et Jacob dressa une stèle sur son tombeau. C'est la stèle du tombeau de Rachel qui existe encore aujourd'hui. Et manifestement, si Matthieu parle de ça, c'est que ça fait partie du décor de Bethléem. Il parle du massacre des saints innocents. Bon, alors, il y a d'autres textes où la tombe de Rachel est située ailleurs. Qu'est-ce qu'il pourrait me dire où ça se trouve, ça ?
Quand Samuel cherche ses ânesses.
Voilà, il y a l'ânesse de M. Kish, qui est le père de Saül, qui ont choisi la liberté. Alors M. Kish envoie Saül chercher les ânesses. Et puis ils font un circuit là-bas au nord, du côté de Rama. Et puis ils apprennent qu'à Rama, il y a un homme qui pourrait leur donner des tuyaux, peut-être, pour les aider à chercher les ânesses. Ils vont le voir, c'est Samuel. Et puis Samuel, au lieu de leur donner des renseignements sur les ânesses, prend sa fiole d'huile et puis oint Saül roi. Et puis il lui dit ensuite cette phrase étrange, « Quand tu m'auras quitté aujourd'hui, tu rencontreras deux hommes près du tombeau de Rachel sur la frontière de Benjamin. » Et remarquez, pour un historien, c'est plus probable parce que, comme encore maintenant chez les Bédouins, on ne vénère pas la tombe de l'ancêtre là où il est mort, mais là où les tribus qui descendent de cet ancêtre ont le plus de chance, le plus de facilité de se rencontrer. Or Rachel, n'oublions pas, est l'ancêtre commune d'Éphraïm et de Benjamin. Joseph a donné naissance à 2 tribus, Manassé et Éphraïm, et puis ensuite est né Benjamin, et puis Rachel est l'ancêtre commune, elle devait être vénérée précisément à la frontière, comme dans cette histoire des ânesses de Saül. Et alors, Jérémie lui aussi, d'ailleurs saint Matthieu le dit, se place à Rama, 9 km au nord. Et alors Jérémie, c'est à une époque où Jérusalem a été prise par le fameux Nabuchodonosor, roi de Babylone. Et alors, il y a un gouvernement collaborateur qui s'est formé là-bas, du côté de Rama, au chapitre 40 de Jérémie, alors qu'il se trouvait enchaîné au milieu de tous les captifs de Jérusalem et de Juda qu'on déportait à Babylone. Alors, Jérémie est emmené à Rama. Et alors, c'est de Rama, je chante cette complainte. À Rama, une voix se fait entendre, une plainte amère, c'est Rachel qui pleure ses enfants. Elle ne veut pas être consolée pour ses fils car ils ne sont plus. Ainsi parle le Seigneur, cesse ta plainte, sèche tes yeux, il est une compensation pour ta peine. Ils vont revenir du pays ennemi, il y a donc un espoir pour ton avenir. Problème, c'est là que je veux en venir, c'est que dans l'Ancien Testament, très souvent, comme pour se moquer de ceux qui attachent un petit peu trop d'attention aux précisions topographiques et chronologiques, eh bien, nous montre que la Bible, bien souvent, montre une certaine désinvolture vis-à-vis de ces données topographiques et chronologiques. Elle est tellement attentive à la signification des choses que pour mieux faire ressortir la signification, elle n'hésite pas à déplacer tel événement dans le temps ou dans l'espace pour qu'il fasse mieux ressortir la signification providentielle que cet événement a prise dans la méditation traditionnelle du peuple sur les voies de Dieu. Et là, c'est un cas typique. Notre religion chrétienne, héritière de tous ces enracinements, est plantée dans le réalisme de l'histoire et de la géographie, c'est ce qui fait toute son originalité, mais en même temps, elle prend une dimension universelle. Comment se fait cette promotion du concret à l'universel? Alors ça, on peut passer toute sa vie à se poser la question philosophiquement, on peut dire c'est comme ça, c'est merveilleux, profitons-en. Mais alors, vous voyez, ça ne veut pas dire qu'il faut pinailler indéfiniment pour se demander si c'est bien là que ça s'est vraiment passé. Et la Bible nous invite à montrer certaines désinvoltures, à nous attacher avant tout à la signification providentielle des événements. Et c'est un principe que j'ai formulé, je donne aux gens une petite brochure là, qui ne vaut pas grand chose. Et alors je pose ce principe à la base, en sortant de l'orbite de Jérusalem vers le sud, par la route des patriarches, à propos de la tombe de Rachel, remarque d'ordre méthodologique. Et voilà le principe que j'ai formulé. Le christianisme pousse ses racines dans le réalisme de l'histoire et de la géographie. Il les pousse toujours plus profondément, au fur et à mesure qu'il s'étend sur l'universalité du monde. Et c'est comme l'arbre. Plus l'arbre s'étend, ses branches en hauteur et en largeur, plus ses racines s'enfoncent dans le sol. Les branches et les racines en même temps. L'intérêt que l'on porte avant tout, souligné, à la signification, en grosses lettres, à la signification providentielle des faits, amène la tradition, déjà dans l'Ancien Testament, à une certaine désinvolture vis-à-vis des localisations trop précises. Alors, conclusion pratique pour les itinéraires. On va se servir des recherches archéologiques, rendre grâce à tous les professeurs qui ont laborieusement travaillé toutes ces questions, mais on va surtout, comme nous invite la Bible, nous attacher à la signification providentielle des événements. C'est ça qui rend les textes actuels. Il y avait une question.
Par conclusion pratique, mais je pense à un lieu précis, là, avec le mont Moria. C'est...
Alors le mont Moria, mais alors là, tu vois, tu m'invites à parler de « qu'on ne comprendra que le dernier jour ». Parce que le mont Moria, c'est justement la même racine de « Ra ». Et moi, je suis persuadé que c'est le récit étiologique de Jérusalem. On vient faire à Jérusalem, dans ses pèlerinages, là, voir celui qui nous voit, l'expérience qu'a faite au maximum notre Père dans la foi. Au fond de l'absurde, alors que le couteau était déjà levé sur la gorge du petit Isaac, là, et toutes les promesses que Dieu avait faites reposer sur cet héritier unique qui n'a pas l'espoir d'en avoir d'autres, alors il fait l'expérience que Dieu le voit, et qu'il est sous le regard de Dieu. C'est comme s'il voyait celui qui le voit. Il fait cette expérience au maximum. Mais alors encore une fois, nous commençons ici, nous reviendrons ici, et à ce moment-là, on se demandera, faut-il lire le sacrifice d'Abraham à Jérusalem?
C'est ça.
Hein? Alors si vous interrogez les historiens, les archéologues, tout ça, ils vous diront le mont Moria, une mention tardive dans le livre des chroniques, un historien peut pas prendre ça au sérieux. Mais si on est au contraire pris dans l'élan de la pensée biblique, et comment? D'ailleurs, il n'y a pas que le sacrifice d'Abraham qui arrive ici, il y a l'échelle de Jacob, tout arrive à Jérusalem. Tout arrive ici pour prendre sa signification plénière et se projeter à travers le temps et l'espace. Alors ça, c'est une remarque importante parce qu'on ne va pas passer son temps à se demander toujours si c'est bien là exactement, mais on va surtout regarder les paysages, essayer de rejoindre la signification providentielle que la tradition vivante de la Bible, épanouie dans le christianisme, a donnée à ces événements que le Christ accomplit par son mystère de mort et de résurrection.